Donc si jamais il vient à se passer un problème technique, un accident de ligne, ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Une ligne à haute tension qui est par mégarde évidemment sectionnée. C'est arrivé en 2008 au nord de la France, hein, un bateau qui sortait d'une rade et qui a accidentellement ripé sur une ligne. Bah, du coup, tout le nord de la France est tombé un peu dans le noir, subitement, puisqu'il n'y avait plus d'électricité, ça ne circulait plus. Et l'électricité, elle ne se garde pas, elle ne reste pas en suspension. Voilà, il faut qu'elle soit constamment sur les câbles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il a fallu produire rapidement de l'électricité pour pouvoir corriger ceci. Alors, le nucléaire, on ne va pas se tourner vers lui, puisqu'il tourne constamment. Le thermique, ben le thermique, c'est un peu long quand même pour mettre en route un groupe de production thermique. Ça prend entre 8 à 12 heures. Donc si on a un problème de ligne, on ne va pas faire appel à ça. Les énergies renouvelables, elles sont trop tributaires de la météorologie. On ne peut pas prévoir et surtout pas se servir d'elles en cas d'accident inopiné. Il nous reste donc ben, l'hydraulique. Et l'hydraulique, alors là, non seulement on va se servir de la première énergie renouvelable au monde, mais en plus, on est capable de démarrer un groupe, de produire et d'envoyer notre production sur le réseau en 3 minutes. Donc ça défie toute concurrence. Donc l'importance de ces barrages qu'on a construits depuis finalement des siècles, maintenant on peut le dire, eh bien c'est qu'ils sont chargés de faire constamment l'appoint sur le réseau au quotidien en fonction des fluctuations de nos besoins, qui varient, c'est l'instantané, c'est des variations. Et ils sont là également en cas de problème sur le réseau. On est capable d'envoyer une production rapide et massive à l'endroit qui a déclaré une panne. Et donc je reviens sur mon exemple de 2008. Il aura fallu une heure et une seule heure pour envoyer et réparer les lignes défectueuses du nord de la France et régler le problème. Toute la vallée de la Truyère a été sollicitée pour envoyer de la production. Et voilà, le problème a été réglé quasiment instantanément. Ce qui n'aurait pas été le cas avec un autre moyen de production. Donc quand on dit qu'on ne sait pas stocker de l'électricité, quelque part c'est vrai, on ne sait pas stocker l'électricité. Par contre, il y a un truc qu'on sait très très bien stocker, et ça depuis très longtemps, et bien c'est l'eau. On stocke de l'eau. Donc les 622 barrages dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est notre stock d'électricité potentiel, 7,5 milliards de mètres cubes d'eau à notre disposition. D'où l'importance de gérer avec une extrême minutie ce stock qui est à notre disposition, puisque l'eau va effectivement servir au turbinage, mais pas que, elle va servir également ben, à la plaisance et au tourisme en période estivale. Il faut bien préparer les pédalos et les kayaks et aller pêcher, se baigner, donc c'est important. Ça fait partie de l'économie et du développement économique qui a lieu avec la construction et l'implantation de barrages et de centrales hydroélectriques. Mais il y a aussi toute la partie soutien d'étiage, soutien aux rivières qui viennent alimenter les bassins que vous avez sous les yeux. Que ces rivières en période de sécheresse, il faut pouvoir les aider, donc on va leur apporter de l'eau si elles en manquent en fait. On va soutenir leur débit, c'est très important. Surtout que la molde qui vient alimenter ce réservoir va se jeter un peu plus bas dans la Vienne, et la Vienne, si vous peut-être vous le savez, contribue au système de refroidissement de la centrale nucléaire de Civaux à Laval. Donc il faut que le débit d'eau soit toujours constant et raisonnable pour pouvoir accomplir cette mission. On rajoute également à ça ben, le fait qu'ici, ben, peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est une dépose de Canadair. Donc il faut qu'il y ait de l'eau pour pouvoir éteindre les feux. Voilà. Il y a les agriculteurs aussi qui ont leur mot à dire pour l'arrosage, l'irrigation. Et puis nous, c'est pareil, l'eau. On se baigne et c'est super, mais bon, qu'est-ce qu'il faut faire en période de canicule? Il faut la boire, l'eau. Voilà, il ne faut pas s'y baigner, il faut aussi la boire. Donc il faut des usines d'eau potable. Donc voilà, tout ce stock d'eau à notre disposition en France, et plus particulièrement ici, au niveau du bassin du Limousin, au niveau du plateau de Mille Vaches, eh bien, ça sert à tous ces usages. On parle de multi-partage, multi-usage de l'eau. En tant que réserve d'eau, bah, le lac de Vassivière, c'est 106 millions de mètres cubes. C'est pas mal quand même. Hein. Ça commence à faire, c'est une grosse piscine. Donc c'est un lac qui va s'étendre sur plus de 8 km de longueur, et il est tentaculaire. C'est-à-dire qu'ici où on se trouve au barrage de Vassivière, on ne voit pas la prise d'eau qui va servir à capter les eaux pour l'usine, et on ne voit encore moins l'usine. On voit rien du tout. Donc cette cuvette, à cette époque-là, elle est pleine. On veille finalement à ce que les réserves d'eau soient au maximum en début de saison estivale pour ensuite se servir du stock tout au long de la saison estivale. Et ensuite, l'automne arrivant, les pluies automnales arrivant, les réserves vont se remplir naturellement. Donc là, on le regarde d'un seul coup d'œil, tout se porte bien, il n'y a pas de problème, les réserves sont bien hautes, pas de souci.
Quand vous videz le lac, il n'y a plus d'électricité, vous ne produisez plus rien comme électricité.
Quand on vide le lac, déjà on ne le vide plus maintenant, c'est terminé. Tu parles des vidanges, en fait, c'est ça ?
Il y a je sais pas combien d'années, à un moment, dans le lac, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que de la terre, des souches d'arbres.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle une visite décennale. Donc les vidanges qu'on effectuait effectivement jusqu'aux années 90, où on vidait complètement la retenue d'eau pour effectuer l'auscultation de l'architecture du barrage, voir si tout allait bien. Le truc, c'est que une vidange, c'est très coûteux. Et en termes de logistique, je ne vous raconte pas le problème que ça peut engendrer, les problèmes que ça peut engendrer, les poissons, qu'est-ce qu'on en fait ? Enfin voilà, il faut dévier à nouveau les eaux, c'est très très compliqué. Une vidange, pour vous donner un ordre d'idée, en termes de travail à l'amont, c'est 3 ans. 3 ans pour préparer une vidange. Donc ouais, aujourd'hui, on évite au maximum de le faire, on va faire appel plutôt à des robots subaquatiques qui vont se charger de l'auscultation du barrage, et si jamais ils détectent évidemment une anomalie, on vidangera. Il n'y a pas de problème, mais voilà. Donc une vidange, c'est pas tout à fait pareil, ça rentre pas en compte au niveau de la production en fait, c'est complètement différent. C'est une intervention de maintenance et de surveillance.
Mais effectivement, ça a peut-être quand même un impact sur la production d'électricité quand on vidange.
Ah ben quand on vidange, on ne peut plus produire. Voilà, mais ça c'est prévu de longue date, donc il y a d'autres outils, d'autres moyens de production, d'autres centrales qui vont prendre le relais pour pallier au manque que l'on peut avoir dans cette région-là. Voilà.
Je vous disais qu'il fallait, vous aviez mis 2 ans la première année là.
Oui, quand vous rendez 18 mois, donc voilà.
Et quand vous vidangez, c'est pareil, c'est toujours 18 mois.
Alors pour vidanger, c'est un peu plus rapide.
Oui, pour remplir.
Ah ben pour remplir, c'est pareil. C'est à peu près pareil. Ah mais c'est très long, c'est très très long.
Au niveau touristique, ils sont une année sans, voire 2 ans.
Vous voyez
sans...
ce que ça peut engendrer de faire une vidange maintenant, vu qu'on a développé des bassins économiques touristiques. On est quand même sur le point le plus touristique du bassin du Limousin quand même. Donc non, on ne peut pas forcément se permettre de faire des vidanges tous les 10 ans. Mais par contre, une chose est certaine, si c'est nécessaire, on le fera sans aucune hésitation. Voilà, il en va de la sécurité de tout le monde. Voilà. Mais on n'est pas dans cette configuration-là. Donc on fait les auscultations nécessaires par d'autres moyens. Et finalement, tout le monde en est satisfait.
Du coup, c'était assez simple, il n'y avait aucune maison, aucun village.
Alors, il y avait des hameaux et des fermes, en fait, qui étaient sous les eaux. Voilà, et qui ont été détruites. Il y a eu des expropriations. Tout à fait, il y en a eu. Oui, oui. C'est souvent le cas au niveau des retenues artificielles. Donc là, on n'avait pas vraiment de village à proprement parler, avec le clocher, dont les cloches sonnent encore sous l'eau. Voilà. Non, non, on avait des maisons un petit peu éparses. Voilà.
Et sinon, une autre question, mais qui n'a rien à voir avec l'aspect production, avec cette concentration de touristes l'été au niveau des eaux usées, comment c'est géré ?
Là, je ne pourrais pas répondre. N'étant pas du coin, je ne connais pas les structures qui sont à proximité.
C'est vrai que ça fait beaucoup de monde entre les centres de vacances, les campings.
Encore une fois, c'est une gestion à prendre en compte.
C'est sur un court terme, quoi, donc c'est pour ça.
Ah oui, au moins 2-3 mois, quoi.